écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
Quelle indignité.
Églantine Lévesque à l'animation.
Nous sommes sur le service public.
Charlie Tétillon à la technique.
Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que
c'est? Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis, juste au-dessus très légèrement de zéro.
Faites mieux. Merci.
Salut Charlie, bonsoir très chers auditeurs et auditrices. Alors, ce jeudi, dans Place au débat, nous allons aborder un nouveau sujet qui fait peu parler de lui, la fin de vie. Ce soir, pour nous accompagner, nous accueillons avec nous Rémi Marchand, de l'association de droit de mourir dans la dignité. Bonjour.
Bonsoir.
Bonjour tout le monde. Avec ma petite voix, parce que j'ai une voix un peu enrouée, mais bonjour tout le monde quand même. Voilà. Et nous sommes sur les ondes de Radio Alpa. Mais aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez interagir, donc @radioalpa au niveau de Instagram ou sinon sur la page Facebook de Radio Alpa, bien évidemment.
Attention, trigger warning. Le sujet d'aujourd'hui pourrait être sensible. Si vous vous sentez mal à l'aise de l'écouter...
Eh ben, ne l'écoutez pas.
Exact.
Sur ce, n'attendons plus et commençons l'émission, Églantine.
Exactement.
Bonjour déjà, merci d'être là.
Bonjour, merci d'être là, oui. Qu'est-ce que c'est l'association de droit de mourir dans la dignité?
Alors, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est l'ADMD. C'est une association qui représente un petit peu plus de 76 000 adhérents en France, et qui représente un petit peu plus de 500 adhérents sur le territoire sartois, donc qui regroupe Le Mans et les villes aux alentours. On a une dynamique qui fait qu'on a une réunion par mois à destination de tous les publics, soit des adhérents ou non, pour informer notamment sur les droits des patients. Et le rôle de notre association, c'est de pouvoir à la fois informer sur la législation actuelle sur la fin de vie, et également faire du plaidoyer sur, auprès des parlementaires, des députés, des sénateurs, sur... la grande volonté de plus de 93% des Français à voir enfin, et aujourd'hui on en parle de plus en plus dans les sujets d'actualité, une loi qui permettrait à chaque Française et à chaque Français de pouvoir choisir les conditions de sa propre fin de vie lorsqu'on est malade ou victime d'un accident grave.
Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette association? C'est quoi votre rôle? Vous êtes qui pour cette association?
Alors moi, je suis le délégué de l'ADMD, donc de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, en Sarthe, dans le Loir-et-Cher et dans l'Eure-et-Loire. Le rôle d'un délégué de l'ADMD, c'est de pouvoir animer ce qui se passe dans nos délégations et de pouvoir entraîner une dynamique pour pouvoir notamment, comme je le disais, notamment avoir un grand poids auprès des parlementaires, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, c'est auprès de ces personnes-là qu'il faut qu'on puisse les convaincre de la volonté de, je le répète, 93% des Français. On en parlera, je crois, tout à l'heure, notamment de la Convention citoyenne qui est à presque 80% favorable à une évolution de la loi. Donc le rôle de l'ADMD, c'est de voir enfin une loi, non pas à la française, comme le dit si bien le président de la République, mais une loi qui permet à chacun de disposer d'un nouveau droit sans rien enlever à personne, sans rien imposer à personne et choisir les conditions de notre propre fin de vie.
Ok. Alors, justement, on va entendre un certain nombre de fois ces mots pendant l'émission. Est-ce qu'on peut définir fin de vie, euthanasie et suicide assisté?
Oui, absolument. Alors, le suicide assisté et l'euthanasie, vous avez raison, c'est très important de faire la distinction. Parce qu'aujourd'hui, la loi vers laquelle on va, on ne sait pas encore véritablement si elle va vers une loi qui demandera au patient par lui-même, par le suicide assisté, comme cela se pratique et fonctionne particulièrement bien en Suisse. Le suicide assisté, c'est la personne qui doit par elle-même activer soit une perfusion ou avaler une solution qui provoque l'acte qui conduit à la fin de la vie de la personne. Ça, c'est ce qui se passe dans le cas de la législation suisse. En Belgique, le cas est différent, il est question d'euthanasie, et là, c'est un acte qui est à la demande toujours du patient, mais qui est appliqué par des soignants. Encadré. Alors en Suisse comme en Belgique, ce sont des collèges de médecins pendant plusieurs jours qui viennent à la fois s'assurer que l'état de santé de la personne correspond bien à la législation. En aucun cas on parle de quelqu'un qui a par exemple une pathologie psychiatrique, psychologique ou qui ne rentrerait pas dans les critères. Donc on s'assure vraiment que l'état de santé physique de la personne rentre dans le cadre de la loi. Donc ça, c'est aussi bien pour le suicide assisté comme pour l'euthanasie. Et à tout moment, également, il faut que la personne, évidemment, soit pleinement consciente et en pleine possession de ses facultés morales et intellectuelles. La personne peut interrompre l'acte. Juste pour précision, en Belgique, là où il est question d'euthanasie, il est question de pas plus de 2,5% des mourants qui meurent par l'intermédiaire de l'euthanasie. Donc, adopter une loi dans un pays, ça ne veut pas dire qu'il y aura un afflux monstre vers cet acte-là. Aujourd'hui, il est question en France d'entre 1 400 et 1 800 personnes qui meurent d'euthanasie, mais dans un cadre clandestin en France, et nous on veut un cadre qui protège cela. Et la fin de vie, évidemment, c'est très large la fin de vie, parce que ça va au-delà du combat qui est porté par la DMD, c'est tout ce problème de déserts médicaux, tout ce problème où on a vu notamment dans les EHPAD des scandales et toutes ces choses-là, c'est de pouvoir permettre à chacun de poursuivre sa vie le plus dignement possible.
Ok, alors on reparlera justement des conditions, on va dire médicales et bioéthiques qui seraient imposées par de telles mesures, et on reparlera aussi bien évidemment de comment dans la population cette nouvelle loi, quelle qu'elle soit, pour l'instant on n'en a pas l'effleurement, donc pourrait être appliquée, pourrait être acceptée, comment elle pourrait être vue. Donc ça, on en reparlera un peu par la suite dans l'émission.
Et les termes fin de vie, à qui ça s'adresse exactement?
Le public, en gros, quoi.
Oui, c'est ça.
Le terme fin de vie, ça s'intéresse à absolument tout le monde, parce que je suis navré de l'apprendre peut-être aux éditeurs qui nous écoutent, mais il y a bien quelque chose sur lequel on est tous égaux, je vais le dire, en France et même au-delà, quelle que soit notre situation sociale, notre profession, l'endroit dans lequel on vit, 100% des Français et au-delà vont mourir un jour.
Ah bon ?
Donc le sujet de la fin de vie s'adresse à tout le monde. Moi j'ai 30 ans, là on est tous les trois particulièrement jeunes, et finalement, ça ne nous empêche pas de parler de ce sujet-là. Je crois que vous êtes un peu plus jeune que moi en plus, mais ça ne nous empêche pas de parler de ce sujet-là. Parler de la fin de vie, ce n'est pas un sujet qui est tabou. Contrairement à ce qu'on tenterait ou à ce que des détraqueurs essaieraient de nous faire croire, c'est un sujet au contraire auquel, je vais essayer de faire très très court, mais il est important de pouvoir parler autour de soi des conditions dans lesquelles on aimerait, en cas d'un accident, d'une maladie, finir nos jours, parce que c'est quand même un soulagement également pour les proches, pour la famille, de savoir qu'on respecte la volonté de la personne qu'on aime autour de soi.
Alors peut-être qu'aussi la question que posait Glantine, à qui s'adressent ces termes, le public, c'est justement à qui s'adressent ces termes. Est-ce que ça s'adresse aux gens uniquement qui ont eu un accident? Est-ce que ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont atteintes, on va dire, physiquement, physiologiquement? Est-ce que ça s'adresse aussi sous condition, mais comme tout en fait, à des personnes qui pourraient avoir des problèmes fondamentaux de survie ou de vie dans la société actuelle, mais d'un point de vue, dans ce cas-là, peut-être plus mental, psychiatrique, à qui ça s'adresse déjà, ne serait-ce que d'un point de vue, on va dire, médical, sans parler de la bioéthique?
Alors, aujourd'hui, le sujet où on parle, alors c'est un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de loi en France qui nous permet de pouvoir bénéficier de l'euthanasie ou du suicide assisté. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de fin de vie, dans ce cadre-là d'euthanasie ou de suicide assisté, on parle uniquement de personnes dont le pronostic vital est remis en question.
Okay.
À aucun moment on peut dire qu'une personne, parce que elle irait pas bien dans sa vie, finalement il y a d'autres accompagnements, d'autres voies qui existent. On parle que de pathologie physique.
Donc à ce stade, c'est si le pronostic vital est engagé.
Exactement.
C'est le seul cadre qui rentrerait pour l'instant.
Exactement.
Donc, ok, bon, comme ça c'est plus clair. Et quel lien peut-on faire entre la médecine et la fin de vie? C'est-à-dire, en somme, médicalement, et alors là ça relève peut-être plus de la bioéthique, comment on procède à une fin de vie? C'est quoi les méthodes, par exemple, médicalement?
Les méthodes, je les ai plus ou moins développées tout à l'heure avec l'euthanasie et le suicide assisté. C'est une solution qui est appliquée, qui a un dosage qui est uniquement calculable par un corps médical. Il y a des personnes qui peuvent se procurer notamment sur Internet, des solutions. C'est pas la solution miracle. Et au contraire, à la DMD, il nous arrive de plus en plus, parce que c'est un sujet qui est quand même de plus en plus médiatisé, de recevoir des appels de personnes en détresse qui nous demandent comment se procurer ce fameux produit magique. Ce produit magique, il faut pas le commander sur Internet. On n'est pas médecin, on ne sait pas quelle quantité il faut par rapport à l'état de santé, par rapport à la corpulence, par rapport à la situation de la personne. Donc, c'est quelque chose qui se fait relativement rapidement, dans des conditions sereines et toujours encadré par des médecins. Là, aujourd'hui, ce qui se passe en France, pour notamment les euthanasies qui sont appliquées, parce que l'euthanasie, répétons-le, aujourd'hui, il y a des gros dérapages avec la loi française. Quand on parle de 1400 à 2000 euthanasies par an en France, eh bien, c'est généralement les médecins qui vont augmenter une dose de morphine sur quelqu'un qui a déjà son corps, son cœur affaibli, entre autres. C'est un exemple.
Ok, pas de souci. Merci pour ces précisions quant aux méthodes. Donc, faut pas s'imaginer, parce que ça, c'est des choses qui sont fausses, qu'on peut entendre parfois. Il ne faut pas s'imaginer que on met à mort, entre gros guillemets, déjà, c'est une expression qui n'est pas du tout appropriée, mais que, entre gros guillemets, on met à mort quelqu'un de manière, barbare, genre asphyxié au CO2.
Mais par ailleurs, en plus de ça, je coupe, mais ce qui est très important quand même à resituer, je fais beaucoup le parallèle avec la législation suisse et la législation belge, mais en aucun cas, en Suisse comme en Belgique, un médecin va aller voir un patient lui disant « Écoutez, ça peut être une issue ou une solution pour vous. » C'est toujours le patient qui est demandeur.
Oui, c'est sur initiative du patient et non pas sur initiative médicale.
Et c'est là où on renverse un peu la machine de la médecine, plus de la voie classique qu'on connaît de la médecine aujourd'hui. Oui, c'est un ultime soin qui peut être appliqué, mais qui est toujours à la demande uniquement du patient.
Ok, pas de souci.
Et donc, en rapport avec la fin de vie, je lance comme ça la question. La loi Kouchner, en quoi est-ce qu'elle est utile pour les patients et aussi pour les intervenants médicaux ?
Aujourd'hui, il y a surtout deux lois en France sur lesquelles il faut se concentrer sur la fin de vie, c'est les lois Claeys et Leonetti.
Oui.
Et c'est surtout sur ces lois-là qu'il faut se concentrer, je pense. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça commence avant tout par le manque d'informations. Et là, je vais faire plaisir aux quelques... J'aime pas parler des opposants à ce combat. Mais bon, on commence à les entendre, on commence à les voir. On a le droit de dire qu'ils sont pas d'accord. Oui, il est vrai qu'on manque de moyens aujourd'hui, notamment en soins palliatifs. Il est vrai qu'aujourd'hui, seuls 80% des personnes qui ont besoin des soins palliatifs dans notre pays n'y ont pas accès. Ça, c'est une réalité. Les soins palliatifs, c'est pas quelque chose qu'on oppose au suicide assisté ou à l'euthanasie. Et aujourd'hui, la seule chose que nous permet la loi Claeys-Leonetti, c'est, alors dans le premier volet qui date de 2005, on a eu la très bonne idée de voir que cette loi ne fonctionnait pas très bien, avant que je la développe. En 2016, on a demandé à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Leonetti, qui avait rédigé la première loi de 2005, de corriger tout seul sa loi. C'est un petit peu comme quand on va en cours et qu'on demande à un élève tout seul de corriger son devoir. Finalement, le résultat, il va être un petit peu le même. Il n'y aura pas de grand changement. Le changement qu'il y a eu, c'est que les directives anticipées, c'est un document légal, c'est une sorte de testament de fin de vie qu'on peut tous remplir, sur lequel on désigne des personnes de confiance qui pourront exprimer nos volontés si elles rentrent dans le cadre de la loi au moment où notre pronostic vital est remis en question. Depuis 2016, grâce à cette petite évolution de la loi, c'est des documents qui sont valables à vie lorsqu'ils étaient valables pendant 3 ans avant. Ça, c'est la vraie réelle évolution qu'il y a eu. Sauf qu'aujourd'hui, on en arrive à un grand manque de moyens, à un grand manque d'informations. Et puis, les issues qui s'ouvrent sur cette loi-là, c'est qu'aujourd'hui, en France, on peut demander, dans le cadre où notre pronostic vital est remis en question, soit à arrêter l'alimentation et l'hydratation. On peut demander à mourir de faim et de soif en soi. On peut demander l'arrêt des traitements et des soins. On peut demander qu'on arrête de nous soigner et on peut demander à être mis sous sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'on nous endort petit à petit, que ça peut durer très longtemps. En Belgique, il y a un cadre qui fait que la sédation profonde et continue est limitée à 48 heures. En France, il n'y a pas de date limite, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sédations profondes et continues qui durent 3 semaines sans alimenter, sans hydrater quelqu'un qui est déjà dans une souffrance mais juste horrible. Finalement, c'est pas ça notre vision de la dignité.
Ouais. Bon, parce qu'il y a toutes des questions, il y a beaucoup de questions bioéthiques. Alors, on va faire une petite pause musicale, et juste après cette pause musicale, on parlera des questions bioéthiques, de l'état des soins palliatifs en France, en lien justement avec cette loi Leonetti. On parlera de l'accompagnement fait aux personnes qui demanderaient l'euthanasie ou le suicide assisté. Et on parlera aussi de tout ce qui est, du point de vue médical, tout ce qui est clause de conscience, tout ce qui touche aussi au serment d'Hippocrate. Toutes ces questions-là qui sont finalement au moins aussi importantes. Donc on s'écoute une petite pause musicale. Cave Town, This is Home. À tout de suite.
À tout de suite.
I cannot fall in love, but I guess this avoids the stress of falling out of it. Are you tired of me yet? I'm a little sick right now, but I swear when I'm ready, I will fly us out of here. And I'll figure out a way to get us out of here. I can feel ghosts and ghouls wrapping my head, but I don't wanna fall asleep just yet. My eyes went dark.
Sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans pour cette troisième édition de Place au débat avec Églantine et Rémi Marchand. Nous traitons aujourd'hui du droit de mourir dans la dignité, puisque nous recevons Rémi Marchand de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous parlons donc de fin de vie, d'euthanasie, de suicide assisté, de l'état de toutes ces choses sur le territoire français. Rémi Marchand est toujours avec nous. Et vous pouvez également réagir et interagir sur les réseaux sociaux à l'arrobase Radio Alpa et sur Facebook à l'arrobase Radio Alpa aussi, hein, puisque on ne peut pas changer une équipe qui gagne. Voilà, donc nous nous retrouvons et nous continuons donc les questions pour Rémi Marchand.
Donc, quelle est la situation des soins palliatifs en France ?
Je les ai un petit peu évoqués tout à l'heure. Sur les soins palliatifs, la réalité, c'est le manque de moyens, également, enfin essentiellement. Aujourd'hui, seuls 20% des personnes qui ont besoin de soins palliatifs dans notre pays y ont accès. Et quand on parle de 20% des personnes qui ont accès, ce n'est pas partout sur le territoire. Il y a des départements, je pense notamment à au Loir-et-Cher, qui depuis seulement un an a une équipe de soins palliatifs qui accueille 12 lits. Donc 12 lits à l'échelle d'un département, c'est pas grand-chose sur les soins palliatifs. Et on a un président de la République qui aujourd'hui montre peut-être des signaux positifs sur le combat pour avancer vers une nouvelle loi sur la fin de vie, espérons-le, mais qui a eu la très bonne idée, avant sa réélection, lors de son premier mandat, de faire un grand plan de développement des soins palliatifs. Alors on était très contents, sauf qu'il a été question de mettre quelques millions d'euros hein, quand même sur ce plan de développement des soins palliatifs, mais sans recruter le personnel, sans former le personnel, et en se consacrant aux départements qui étaient dépourvus d'équipes de soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il existe des départements en France qui ont des équipes de soins palliatifs sans personnel. Et ça, on les oublie. Et la réalité sur le territoire, et surtout sur les territoires ruraux, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ces soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est en quelque sorte les derniers soins qu'on va pouvoir avoir lorsqu'on sait que l'issue de la personne ne va être que des souffrances, que des moments où le corps s'affaiblit, et bien de pouvoir accompagner la personne vers la mort. C'est un petit peu ce qui se passe dans
les soins palliatifs. C'est du soin qui est davantage de l'ordre, on va dire, du confort et de l'antidouleur du patient, davantage que des soins qui visent à résoudre le problème. C'est-à-dire que c'est des soins qu'on occupe quand on considère que le problème est incurable. Donc il arrive à un stade où c'est plus possible de le soigner en tant que tel. Quoi.
Vous l'avez encore mieux décrit que j'allais le décrire. Donc,
mais je vous en prie.
C'est très bien. Et pour le coup, ces soins palliatifs-là, ils sont absolument nécessaires, mais en aucun cas, ils sont opposables à l'aide à qui va mourir, au suicide assisté et à l'euthanasie. Je fais encore le parallèle avec ce qui se passe chez nos voisins suisses et nos voisins belges, notamment en Suisse, où les soins palliatifs fonctionnent particulièrement bien. Alors, il n'y a pas 100% des personnes qui en ont besoin qui ont accès, parce que c'est quand même compliqué. Mais il existe des personnes qui passent par les soins palliatifs, qui demandent à bénéficier des soins palliatifs, et qui à un moment disent « bon bah finalement, là la souffrance elle est encore trop compliquée pour moi, et je souhaite quand même qu'on interrompt en fait toute cette procédure et qu'on me laisse partir tranquillement et avec ma conception de la dignité. Okay. Donc en aucun cas on peut dire que finalement si on mettait les moyens nécessaires dans les soins palliatifs, peut-être que je m'avance sur des questions qu'il va y avoir ensuite, mais en aucun cas si on met tous les moyens nécessaires sur les soins palliatifs, ça rendrait inutile le fait de pouvoir aider les personnes à partir. Ce sont deux choses différentes, d'apaiser les souffrances et de supprimer les souffrances pour quelqu'un.
Alors bah justement, ça aura sûrement un rapport avec la question que je vais vous poser maintenant. La loi Leonetti, ce qu'on reproche souvent à cette loi, c'est pas tellement la loi en elle-même, c'est le fait soit qu'elle soit insuffisante dans son application, mais donc est-ce que l'appliquer entièrement suffirait ? Ce qui revient un peu à ce que vous disiez sur les soins palliatifs. Même si les soins palliatifs en France étaient dans la meilleure des situations, est-ce que ça suffirait ? Et autrement que ça, on considère pour beaucoup, juste simplement, que la loi est insuffisante et que les soins palliatifs aussi, même s'ils étaient entièrement appliqués. Alors il y en a qui exigent que tout ça soit entièrement réglé avant de mettre la question de la fin de vie sur la table, voilà, entre guillemets les choses dans l'ordre, si je reprends leurs propos. Est-ce que c'est un argument ? Est-ce qu'on peut se dire que parce que l'un n'est pas complètement développé, il faut faire sourde oreille sur l'autre ?
Absolument pas. Je pense que c'est un argument qui est absolument dénué de toute bonne réflexion et de bon sens. Il faudrait ne pas être malin pour véhiculer ces idées-là. Pour les croire, je pense que c'est on croit ce qu'on entend et que les arguments qu'on entend, c'est une chose. Je ne voudrais pas dire que toutes les personnes qui pensent cela se trompent, mais les personnes qui lancent ces fausses rumeurs disent des bêtises et ne sont pas forcément des gens très malins et dénués de bon sens. Pour le coup, il y a un exemple très simple et qui n'est pas si ancien que ça, qui est le cas de Vincent Lambert. Vincent Lambert, on en a plus ou moins tous entendu parler.
Oui, la grosse affaire.
Complètement.
Et finalement, l'affaire Vincent Lambert, ce n'est pas une situation marginale. Elle existe un peu partout sur le territoire à plusieurs moments. Et là, il y a eu un focus parce qu'il y avait d'un côté la maman, avec une forte présence de la religion notamment, et de l'autre côté, la conjointe de Vincent Lambert, qui, elle, exprimait une autre position en disant, écoutez, Moi, je sais que mon mari, alors Vincent Lambert, c'est quelqu'un qui a passé plusieurs années hospitalisé, qui a été victime d'un accident de la route. Il était motard, ce monsieur, et il a toujours dit à sa compagne, il n'y a pas eu de trace écrite, il n'a pas rempli ses directives anticipées. D'où l'importance quand même de rédiger ce document qui est assez méconnu, malheureusement, et qui existe. Eh bien, il avait simplement dit oralement à sa compagne, écoute, moi, si un jour il m'arrive un truc, ben, lorsque je travaille, je vois ce que c'est des fins de vie difficiles, je ne veux surtout pas être à la guime, je ne veux surtout pas mal mourir. Et puis, de l'autre côté, il y a maman qui a dit, ben, moi, je veux qu'on fasse tout pour garder mon fils le plus longtemps en vie. Ça s'est résumé à des années à l'hôpital, branché de manière à avoir une vie plus ou moins artificielle sur une machine. Et finalement, c'était un combat juridique. Et c'était même plus une situation où on parlait du patient. Et aujourd'hui, bah, ça, c'est ce qui se passe avec l'application de la loi. L'application de la loi, c'est finalement, même s'il y avait 100% des personnes qui pourraient aller dans les soins palliatifs, ça n'aurait pas résolu le problème. S'il y avait une grande information sur la loi actuelle, ça n'aurait pas résolu le problème. Parce qu'on ne rend pas obligatoire la rédaction des directives anticipées. Cependant, si on avait pu quand même faire valoir cette volonté réellement à pouvoir dire stop, on arrête là et on arrête la bêtise, on arrête d'aller à l'encontre de la volonté du patient, parce que c'est bien d'avoir des prières dans la rue, mais c'est pas ça la solution. Aujourd'hui, il faut simplement écouter les patients et également, c'est quand même important de le souligner, protéger également juridiquement les médecins. On pourra peut-être parler un peu plus tard de clause de conscience,
on en parlera.
De comment on encadre les médecins, mais on ne peut pas non plus mettre en danger les médecins à aller enfreindre la loi. Et c'est pour ça qu'il y a une grande urgence à pouvoir apporter ce droit nouveau. On parle simplement d'une liberté de choix dans les derniers instants de la vie, et puis sans distinction de moyens financiers. Aujourd'hui, les issues
sont vrai parce que
à l'étranger pour...
C'est très onéreux quand même aujourd'hui de... Partir à l'étranger, par exemple, pour faire ça, quoi.
J'ai eu au téléphone, lorsque j'étais en train de venir vous voir tout à l'heure, un adhérent de la DMD, 93 ans, qui habite en Sarthe, qui m'expliquait qu'il avait préparé sa fin de vie et la fin de vie de sa femme. Ils ont chacun dépensé 11 000 euros qu'ils ont mis de côté pour pouvoir préparer leur fin de vie en Suisse. Ça, c'est des personnes qui ont les moyens de pouvoir le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui explique que oui, c'est pas accessible à tout le monde de pouvoir partir. Et fuir son pays pour mourir dignement, je ne pense pas que ce soit la solution, même si on en a les moyens.
Petite question de curiosité. Comme vous l'avez dit, on a tous suivi cette histoire. Personnellement, je ne sais pas comment ça s'est fini.
Oui, bon. C'est l'histoire de Vincent Lambert, c'est ça?
Oui.
C'est ça.
Est-ce qu'en trois mots, parce que je ne sais pas si tout le monde, en plus à l'antenne, a de nouveau l'histoire en tête, la référence et savoir comment ça s'est fini, est-ce que vous pouvez la résumer et dire la fin en deux, trois mots, quoi? Si vous l'avez en tête, là, parce que aussi, c'est une histoire qui... Tout le monde voit de quoi on parle globalement, mais c'est une histoire qui remonte un peu. Donc l'avoir précisément en tête, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas bien grave non plus.
Mais... Alors, très rapidement, le début, je l'ai expliqué, je ne vais pas le répéter pour ne pas prendre trop de temps d'antenne. La fin, c'est que ça a été un combat juridique et c'est finalement la justice qui a dû trancher les conditions de la fin de vie et pouvoir laisser partir en affaiblissant les machines, en débranchant les machines, Vincent Lambert.
D'accord.
Ok, d'accord. Alors, les soins palliatifs, globalement, du coup, on a vu ce que c'était et tout ça. Alors, vous n'êtes pas infirmier en soins palliatifs, donc je vais pas vous. Je vais pas. Si vous n'avez pas de réponse précise, mais souvent on n'a pas non plus l'image de ce que ça représente. C'est-à-dire que personne n'y est. Comment ça se passe un service de soins palliatifs en fait? Est-ce que vous avez une idée là-dessus de quelles sont les conditions en fait de travail en fait des personnes qui travaillent en soins palliatifs? Parce que déjà c'est pas facile parce que c'est faire potentiellement face à la mort tous les jours, peut-être même davantage que dans d'autres services. Donc déjà au niveau psy, faut que les gens qui travaillent là-bas soient assez carrés. Quoi. Et puis voilà quoi. Enfin c'est des soins, c'est un service qui est quand même particulièrement spécial au niveau de l'éthique et de la bioéthique quoi.
Je pense que c'est un service qui est très spécial, comme la pédiatrie peut être très spéciale parce qu'on est là à la pédiatrie face à des très jeunes enfants, à des jeunes enfants. Et je pense que chaque spécialité ont leur particularité. Évidemment, ce rapport au grand âge. On sait très bien que ça va irrémédiablement, je ne sais pas si j'ai bien articulé, tendre vers la fin de la vie, vers la mort. Et je pense que ça fait également partie de cette réflexion qu'on doit avoir vers une future loi en France où il faut qu'il y ait une vraie formation de l'ensemble des soignants, même des médecins traitants, sur la fin de vie en France, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, même des médecins traitants, qui sont trop peu formés sur l'accompagnement des personnes, qu'on soit âgé ou pas, mais qu'on soit face à une fin de vie assez proche ou imminente. Aujourd'hui, oui, il y a plusieurs manières dont les soins palliatifs existent. Il y a des services mobiles de soins palliatifs qui travaillent à domicile. Il y a des services de soins palliatifs en structure hospitalière, dans le public comme dans le privé. Mais il y a surtout une grande tension parce que ce sont des personnes... J'ai eu l'occasion de discuter avec des médecins soins palliatifs il y a peu de temps lors d'un débat, mais qui sont également débordés à la fois par des situations qui font mal au cœur parce qu'on ne trouve pas d'issue, et également par des situations auxquelles mais ils n'ont même pas de moyens, et puis surtout d'être obligés de refuser des personnes qui doivent rentrer dans ces cursus médicaux.
Ok, pas de souci.
Et je le rappelle, le président de la République nous avait expliqué pendant un temps que c'était les grands héros qu'il fallait féliciter et récompenser, et aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des paroles oubliées.
On appelle ça l'hypocrisie dans le jargon.
Et donc justement, ces grands héros, on parle d'eux, mais qu'en est-il de la clause de conscience? Que ce soit pour les médecins, le personnel médical
La clause de conscience, bien, on en a eu le cas notamment au Bailleul. Là, je suis un cas encore un peu court, parce que c'est quand même un peu comme Vincent Lambert, c'est un fait qui remonte à quelques temps. L'hôpital du Bailleul a un gynécologue qui a décidé, il y a quelques temps, finalement, de plus pratiquer l'IVG. On s'est retrouvé dans une structure hospitalière où les femmes qui arrivaient, qui avaient besoin de ce soin, de l'IVG, ne pouvaient plus avoir recours à ce soin parce que le médecin avait décidé d'appliquer sa clause de conscience.
Sauf que ça, c'est illégal.
Et c'est là que c'est très dangereux, parce que oui, ils vont avoir l'obligation de renvoyer vers un confrère. Mais finalement, quand on arrive dans un territoire rural et qu'il y a une urgence, il n'y a pas forcément de solution miracle. Et quand je parle de l'IVG, ce n'est pas un sujet qui est déconnecté du droit de mourir dans la dignité. C'est un combat, j'aurais peut-être dû le dire en me présentant tout à l'heure, mais ce combat-là, il est au même titre que le mariage pour tous, que pour l'égalité entre les hommes et les femmes, que l'accès à l'IVG.
C'est un droit humain.
C'est un droit humain, c'est d'apporter un droit nouveau sans rien imposer à personne. Et pour en venir un peu à la question quand même de la clause de conscience, la clause de conscience, elle existe plus ou moins. Elle est plus ou moins écrite, c'est plus quelque chose qui existe aujourd'hui dans les mœurs, mais heureusement qu'elle existe, cette clause de conscience. Et je pense qu'on pourra reparler du serment d'Hippocrate également.
On en reparlera tout à l'heure.
Un texte assez ancien et peut-être qui aurait vocation à évoluer. Mais cette clause de conscience, évidemment, il faudra qu'elle soit appliquée. Et ce ne sera pas tous les médecins qui vont avoir la possibilité d'accompagner les patients en fin de vie. Comme aujourd'hui, c'est un cursus particulier pour les soins palliatifs. De la même manière, ce sera un cursus spécialisé pour accompagner les personnes vers la fin de vie.
Si je peux rajouter un mot sur cette clause de conscience, c'est un terme qui est un peu un flou, un vide juridique, parce que c'est à minima très mal défini dans la loi, en fait. Et en fait, la clause de conscience, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à ce que, si vous êtes médecin, vous pouvez refuser de pratiquer un acte si ça va contre votre conscience et votre éthique personnelle. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental et nécessaire. On ne va pas obliger les médecins à faire quoi que ce soit. Cependant, ça pose plusieurs questions. Est-ce que la clause de conscience est limitée par la loi? Donc, par exemple, quand l'IVG est légal et, est-ce que ça rentre dedans? Surtout que là, en ce moment, il y a la procédure de constitutionnalisation de l'IVG, donc qui rend ce droit encore plus inaliénable, si je peux dire. Est-ce que même si on inclut la clause de conscience, est-ce que pour autant il y aura une veille sur le fait qu'il y en a qui utiliseront ça comme argument pour, en fait, entre guillemets, empêcher toute forme d'application des lois? C'est un vide juridique, la clause de conscience. C'est un truc nécessaire, mais qui pose beaucoup de questions, en fait, dont il faudra répondre. C'est l'occasion, vu qu'on parle de la fin de vie, puisque voilà. Mais il faudra également y répondre.
Ça fait partie des fortes craintes qu'on a.
Alors, nous allons poser une petite question sur la... sur le serment d'Hippocrate, puisqu'on en parlait à l'instant. On va poser cette question maintenant, c'est le temps. Donc, le serment d'Hippocrate, prononcé par les médecins, est un serment qui... Bon, je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est assez long, mais qui en, les médecins prêtent serment de ne jamais attenter à la vie de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Oula.
Bah alors.
Ne jamais attenter à la vie de qui que ce soit, de prendre toujours soin de son prochain, de venir en aide à quiconque en aurait besoin ou le demanderait. Mm-hmm. Enfin bon, vous comprenez l'idée. C'est le serment des médecins d'être un, de ce qu'on pourrait entendre par bon médecin. Voilà. Et c'est souvent que ce serment d'Hippocrate, du coup, dedans, on entend, et c'est écrit d'ailleurs dans le serment d'Hippocrate, qu'un médecin n'enlèvera pas la vie de quelqu'un ou ne l'aidera pas, ne sera pas complice de ça. Donc, là, ça pose question sur la fin de vie, parce que du coup, est-ce qu'il faut changer cette partie du serment d'Hippocrate ? Ce qui là va être lourd, parce que c'est les médecins qui devront accepter de changer ça, quoi.
Tout ce que vous venez d'énumérer sur le serment d'Hippocrate, parmi les quelques points en font évidemment partie, je compléterai avec un autre point que j'avais apporté d'ailleurs lors de ce débat avec des médecins. Dans le serment d'Hippocrate, il est signifié également que les médecins ne travaillent pas contre une rémunération. Je pense que ce document, qui date quand même du 4e siècle avant Jésus-Christ, oula, a vocation à pouvoir évoluer lorsqu'on est aujourd'hui en 2023. Donc oui, il y a eu quelques modifications. Il me semble que ça fait plus de 12 ans qu'il n'y a pas eu de modification dans le serment d'Hippocrate. À l'échelle d'un document si ancien, ça prouve quand même qu'il est possible de le faire évoluer. Donc oui, il existe un serment d'Hippocrate. Il existera, il existe une plus ou moins clause de conscience. Mais oui, c'est un argument qui est apporté par certains médecins. Mais l'euthanasie aujourd'hui, elle est appliquée en France. Je le répète, il y a des médecins hein, d'ailleurs qui sont favorables et qui ont signé un plaidoyer en faveur d'une loi de libre choix. Il y a des médecins qui l'appliquent. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un cadre juridique. Et puis, oui, une évolution certainement du serment d'Hippocrate, mais également peut-être une réponse de l'ordre du médecin à un moment sur ces questions-là, où il reste aussi souvent très sourd ou avec des arguments, comme je disais tout à l'heure, peut-être des fois un peu déconnectés de la réalité.
Si je peux me permettre, le serment d'Hippocrate s'auto-contredit parce qu'il dit que le médecin ne doit tuer ou ne doit être complice de la mort de personne, et en même temps, il dit qu'il doit prendre en compte ce que dit le patient. Et d'abord et avant tout, agir tel que le patient le voudrait pour lui-même. Donc là, on a un problème, parce qu'en gros, il lui dit, vous avez le droit, et c'est dans votre devoir d'être dans l'euthanasie ou dans le suicide assisté, mais en même temps, il ne faut pas que vous soyez complice de la mort de qui que ce soit. Enfin, mettez-vous d'accord, quoi, entre guillemets.
C'est exactement pour ça que je pense que c'est un texte qui quand même... je pense pas forcément dans l'air du temps actuellement.
Ah oui, donc, il faudrait carrément l'oublier.
Il faudrait pas l'oublier, mais je pense que c'est un document qui peut avoir tendance à avoir un sujet à des évolutions en fonction de l'évolution des conditions de santé au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. On en parle hein, d'ailleurs du fait que les Français vivent de plus en plus longtemps. Et bien peut-être que...
On va peut-être trouver le numéro de téléphone d'Hippocrate. Je vais chercher ça.
Avec plaisir.
Et justement, puis pendant qu'on parle donc du serment d'Hippocrate, du fait, je pense que la solution serait qu'il y ait une évolution au niveau de la règle, en gros. Est-ce que ce serait le rôle de l'Assemblée nationale de le faire et quelle est la position justement de l'Assemblée nationale et des députés en France ?
Du Sénat aussi.
Du Sénat, oui.
Mais d'abord en Sarthe.
Sur la question, mais d'abord en Sarthe.
Évidemment.
J'adore compléter les questions.
En Sarthe, on a un cas de figure où on a deux parlementaires qui sont très favorables au combat pour le droit de mourir dans la dignité. C'est Marietta Caramanli, qui lors de son précédent mandat également avait été présente pour un premier vote dans le cadre d'une niche parlementaire. Je ne vais pas trop m'étendre, mais c'était un temps dans lequel les minorités, les groupes minoritaires pouvaient s'exprimer. Il y a eu déjà un débat sur la fin de vie, qui avait été sabotée par 5 députés Les Républicains.
Et
il y a une députée qui a été présente comme députée sartoise, c'est Marietta Caramanli, qui avait été présente, qui avait voté favorablement une évolution de la loi. Il y a également Élise Le Boucher, qui, avant même d'être députée, était venue nous rencontrer, la DMD, et qui avait fait figurer dans ses documents de campagne cet engagement en faveur d'une loi de libre choix, et qui nous répète encore aujourd'hui qui est tout à fait favorable. Elle a d'ailleurs rejoint avec Éric Martineau, qui fait partie, lui, de la majorité présidentielle. Quant à elle, elle fait partie de la NUPES, hein, du groupe de l'opposition, de la gauche de l'opposition. qui font tous les deux partie du groupe de travail qui est présidé par Olivier Falorni, un parlementaire de La Rochelle. Je vais me tromper sur le nom du département, mais de La Rochelle, qui est président de ce groupe de travail, et deux parlementaires sartois en font partie. Il y a Éric Martineau qui, lui, par contre, reste un petit peu silencieux sur sa position. Julie Delpech qui est plutôt favorable, mais qui ne nous a pas encore répondu très clairement sa position sur cette question-là. Et un parlementaire qui est Jean-Carl Grelier, qui a, malgré toute la sympathie que je peux avoir pour lui et le fait de le tutoyer lorsque je le rencontre, une position instable sur la question. En fonction des mouvements politiques auxquels il est rattaché lors de ses mandats. Espérons qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit que ce combat est quand même assez bien engagé de la part du président de la République, si Jean-Carl Grelier fait partie de cette majorité présidentielle, il suivra la voie du président de la République pour avancer vers cette question qui est tant attendue par les Français. Et pour les sénateurs, il y a un seul sénateur qui est absolument d'accord avec nous, c'est Thierry Cozic, qui est sénateur socialiste et qui avait demandé à nous rencontrer également, qui a beaucoup travaillé sur la question. Et deux autres sénateurs de droite ne sont pas favorables à une évolution de la loi.
Ok. Alors on va faire une petite pause musicale et on terminera cette émission derrière. Il reste quoi ? Deux, trois questions. On va notamment se pencher sur la question de la convention citoyenne qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là. Sur du coup aussi le point de vue, on va dire, de manière générale, dans la société de cette question-là. Et on parlera aussi du projet Euthanasia Coaster. Donc, on va parler de tout ça après. Nous faisons une petite pause musicale qui s'intitule « Who I Want To Be » et « Who You Really Are ». C'est une sorte de mash-up de deux musiques qui ont été écrites par David Arnold. À tout à l'heure.
de retour sur les ondes de Radio Alpa dans Place au débat, qui s'intéresse à la fin de vie avec notre invité Rémi Marchand, qui est toujours là, de l'association de droit de mourir dans la dignité. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et interagir aussi.
Exactement, à l'arrobase Radio Alpa, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez surtout pas, votre point de vue nous intéresse. Alors pour la petite musique, les plus fans auront reconnu que c'était la bande-son de la quatrième saison de la série britannique Sherlock.
Ah ouais ?
Oui. Et pour les encore plus fans qui connaissent très bien cette saison, ils sauront pourquoi je l'ai mis sur une émission qui concerne la fin de vie. Je vous laisse regarder cette magnifique série. Est-ce que tu veux nous récapituler, pour revenir à nos moutons, ce qu'on a dit avant dans cette émission, Eglantine ?
Alors oui, donc on a parlé de l'euthanasie, de la fin de vie, des conditions médicales, avec les soins palliatifs en France, mais aussi chez nos voisins suisses et belges.
Exactement.
Belges. Avec la loi Leonetti, si je ne me trompe pas. Espérons.
Oui, c'est ça.
Le placement de l'Assemblée nationale et des députés sur ce sujet. Sachez qu'il y en a certains qui sont pour la fin de vie digne.
Et d'autres qui sont contre. C'est le principe d'un parlement.
Contre. Exactement.
Voilà. Et on a dit que les soins palliatifs étaient insuffisamment développés en France, mais que quand bien même ils seraient complètement développés, ça ne réglerait pas la question de la fin de vie. Donc, appliquer les lois de Leonetti en entier n'était pas un argument suffisant.
Et avec une loi un serment d'Hippocrate complètement dépassé.
Complètement dépassé.
Un peu, quand même.
Il y a certains points qui sont à revoir. Calme-toi, quand même. Et donc, nous allons continuer cette émission sur les questions un peu de société. Donc, il y a une convention citoyenne qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps sur la fin de vie. Quels résultats en sont sortis ? Et parce qu'il y a des détracteurs d'une loi sur la fin de vie en France, il y a des détracteurs, il y a des gens qui n'en veulent pas. Pourquoi cette loi bioéthique fait autant débat et qu'est-ce qu'il est sorti de cette convention citoyenne ?
Pourquoi cette évolution de la loi ou cette, je l'espère, plutôt nouvelle et future loi fait débat ? Mais parce que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous et on le sait très bien. Encore une fois, je vais essayer de faire court, mais les personnes avec des arguments qui essaient de dire que tout et n'importe quoi. Mais finalement, les gens qui sont rassemblés, je crois, à une quinzaine, Place de la République, il y a une dizaine de jours, oui, bon, bah, ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. 96% des Français sont favorables à une loi de libre choix. 76% des personnes ayant participé à la Convention citoyenne, dont on va parler dans quelques instants, sont favorables à une évolution de la loi. Une large majorité des parlementaires, alors je parlais des parlementaires sartois, mais une large majorité des parlementaires sur le territoire national ont été auditionnés également par des cadres de la DMD sur toute la France, sont favorables à une loi de libre choix. Le président de la République est favorable à une loi de libre choix et l'ancien président qui est François Hollande l'avait même pour engagement de campagne au même titre que le mariage pour tous. Donc oui, ce combat est légitime et attendu par tous les Français. On parle d'apporter un droit nouveau. Que des gens soient pas d'accord, on sait qui ils sont. On sait très bien leur méthode. Finalement, il est peut-être important de rappeler également qu'il y a des fondements laïques dans notre pays et que toutes les lois républicaines doivent se baser sur la laïcité et du coup sur un droit nouveau sans rien enlever à personne.
On fera une émission sur la laïcité d'ici la fin de l'année.
C'est une très bonne idée. Mais après ce petit coup de gueule sur ces quelques opposants qui peuvent exister, eh bien, il y a une convention citoyenne qui a été mise en place par le président de la République après avoir attribué la plus haute distinction de la Légion d'honneur, dont je ne sais plus le nom exact, auprès de Lynn Renault.
La Grande Croix, non ?
Exactement.
Non, la Grande Croix, c'est pour le président de la République, peut-être.
Ah bah
je
ne
sais plus.
C'est Lynn Renault qui a eu la plus haute distinction, du moins de la Légion d'honneur, et elle est marraine de la DMD. À cette occasion-là, Emmanuel Macron a dit à Lynn Renault que son combat en faveur du droit de mourir à la dignité était noble et digne, et qu'il ferait tout pour que ce combat avance.
Grand officier.
Voilà.
Pas Grand Croix. Grand Croix, c'est le président de la République.
À chaque fois, j'arrive pas à répondre.
Ah non, pardon, le président, c'est le grand maître. Pardon, donc c'est bien Grand Croix, la plus haute distinction non présidentielle.
Bien, lorsque Lynn Renault a eu la Grand Croix, si on dit ça comme ça, de la Légion d'honneur, le président de la République s'est prononcé face à la presse et face à Lynn Renault en disant qu'il voulait faire avancer le sujet. Et du coup, il a mis en place une convention citoyenne. On a été plus ou moins surpris de cette volonté de mettre en place cette convention citoyenne, sachant qu'on sait déjà, par des sondages IFOP, par ces engagements qui ont été tenus par, enfin qui ont été promis par d'autres présidents de la République auparavant, un président de la République auparavant avec une promesse non tenue. Voilà, on sait très bien que c'est une promesse qui est attendue de la part des Françaises et des Français. Je me mélange un peu avec cette histoire de Lynn Renault. C'est découlé de ça la mise en place d'une convention citoyenne à laquelle a été tiré au sort 185 personnes. Quelle que soit la présence sur le territoire géographique et les conditions sociales, financières et professionnelles de chacune et chacun, et les convictions des fois peut-être militantes. Cette convention citoyenne, elle a permis, à travers près d'une dizaine de temps de débats et d'échanges, de pouvoir auditionner des Français un peu tirés au sort sur leur volonté et l'état des lieux, en fait, de la loi également en France aujourd'hui. Et il y a eu cette restitution de la Convention citoyenne qui révèle que 76% des participants sont favorables à une évolution de la loi. Ouais. À l'issue de cela, le président de la République devait décider s'il mettait en place un référendum ou s'il ouvrait la porte ouverte à un débat parlementaire, non pas dans le cadre d'une niche parlementaire comme cela a existé, été saboté, je le répète, par ces 5 députés pas très laïque lors du précédent mandat à l'Assemblée. Et du coup, si c'est le président couvre le débat à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de date de limite de temps. On le voit avec des débats qui s'éternisent à l'Assemblée actuellement. Lorsque c'est le gouvernement qui impose un sujet à l'Assemblée nationale, on a tout le temps pour en débattre. Et
oui.
Aujourd'hui, c'est ce vers quoi on va. Le président de la République a promis un texte de loi pour le courant de l'été. Les bruits de couloir auprès des parlementaires avec qui on échange nous laissent imaginer qu'une loi pourrait être votée et adoptée soit au mois de décembre ou janvier, décembre 2023 ou janvier 2024. Nous, ce qui nous fait peur, c'est le contenu de la loi. C'est les propos du ministre de la Santé qui nous dit émettre des réserves. On ne sait pas ce que ça veut dire sur une évolution de la loi. Et juste parce qu'on est en Sarthe, parce qu'on est au Mans, Marlène Schiappa a été adhérente de la DMD. Elle a quitté la DMD juste quelques jours avant de rejoindre le gouvernement lors du premier mandat. Et elle a fait partie d'une tribune avec 109 personnalités signataires en faveur d'une évolution de la loi.
Ok. Souhaitez-vous rajouter peut-être quelques informations ou un mot de la fin concernant ce sujet-là ou concernant la DMD en Sarthe avant qu'on se quitte ?
Tout à fait. Je vais encore essayer de faire court parce que je parle beaucoup. Mais ce combat-là, le fait d'en parler, voilà, on est assez jeune, là, on est en train d'en parler, c'est pas un sujet qui est morbide. Quel que soit notre âge, il faut en parler, il faut faire savoir autour de nous nos volontés. J'incite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à pouvoir rédiger leurs directives anticipées. C'est vraiment quelque chose qui est pas très compliqué. C'est accessible sur le site de la DMD ou sinon on peut même téléphoner à la DMD. On tombera sur moi, au 07 64 11 21 21. On peut également nous contacter avec le arrobase ADMD 72 sur tous les réseaux sociaux. Et on va faire une réunion publique le 3 juin, à laquelle j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet à pouvoir venir, qui va être à l'hôtel Ibis Le Mans de la Gare, à 14h30, en présence d'Anne Vivien, qui est médecin et vice-présidente de notre association. Mais je le répète, voilà, c'est un sujet qui n'est pas morbide, au contraire, on peut être très bon vivant et en parler. Et voilà, merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet échange. Charlie, je te rends l'antenne.
Oh, même moi, je ne vais pas la garder bien longtemps.
Et on se retrouve jeudi 13.
Comment ça ? C'est aujourd'hui jeudi 13.
Pardon ?
Je mélange les pinceaux, ouais, c'est n'importe quoi. Ça.
Exactement.
Oh, c'est le journaliste. Jeudi 27.
Exact, oui, pardon, ma faute. Donc on se retrouve jeudi 27 à la même heure où nous parlerons d'un autre sujet.
Et alors l'autre sujet en question, c'est alors en lien avec l'émission qu'on avait fait la dernière fois sur la zététique un petit
Exact.
On va faire un retour sur les rencontres de l'esprit critique qui sont un congrès national qui se passe à Toulouse
le 22 et le 23.
Donc sur l'esprit critique où nous irons et où nous ferons un retour sur tout ça le 27. On vous invite également à y aller, donc vous pouvez taper rencontre de l'esprit critique sur internet. Voilà, on vous dit donc
à jeudi prochain, dans deux semaines.
Et puis gardez la pêche.
Ben
voilà, allez, des bisous.
Avec à l'animation,
nous sommes sur le service public.
Table, arrêtez de salir, mon...
Charlie Tétillon à la technique.
Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que c'est?
Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis, juste au-dessus très légèrement de zéro.
Faites mieux. Merci.